Vous écoutez France Culture.
Après avoir évoqué la question de la laïcité, des rites et des symboles, et après avoir retracé à grands traits l'histoire hideuse de l'antimaçonnisme, il était plus que temps d'aborder l'histoire véritable de la franc-maçonnerie dans les nouveaux chemins de la connaissance. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, en compagnie de Roger Daché, qui est président de l'Institut maçonnique de France et historien, comme il se doit, de la franc-maçonnerie, auteur notamment d'un que sais-je sur l'histoire de la franc-maçonnerie française. Bonsoir Roger Daché.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue sur France Culture. Alors on va parcourir avec vous autant que possible en une demi-heure les différentes étapes de cette histoire tumultueuse, complexe. Mais avant ça, comme il arrive que malgré tous les efforts des nouveaux chemins pour lui échapper, les chemins de la connaissance soient rattrapés par l'actualité, je voudrais avoir votre sentiment sur la dernière une en date de L'Express qui fait un scoop de l'annonce de Xavier Bertrand qui déclare appartenir à la maçonnerie. Alors, je ne vous demande pas, Roger Daché, ce que vous pensez de l'appartenance, somme toute parfaitement banale, d'un ministre de la République à la franc-maçonnerie. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce qu'il faut penser du traitement qu'on réserve à cette nouvelle. Est-ce que c'est un scoop? Est-ce qu'il faut en faire un scoop? Ou est-ce que c'est une façon d'accréditer dans les consciences le sentiment que la maçonnerie relève un peu de ces sociétés secrètes, en somme, qui gouvernent en sous-main?
Vous savez, un historien a toujours beaucoup de mal à parler de l'actualité.
Donc
c'est
aussi,
c'est un peu en faisant un détour par l'histoire que je voudrais vous répondre. Il est arrivé à diverses reprises qu'on ait à jeter en pâture au public un ou plusieurs noms de personnalités plus ou moins connues en disant « c'est un franc-maçon » ou « ce n'est pas un franc-maçon » parce que l'information peut être dans un sens ou dans l'autre.
Des exemples
Non, mais tout simplement, quand on a, en 1980 par exemple, quand un gouvernement d'union de la gauche a été constitué, eh bien, on a fait la liste qui était assez imposante dans le premier gouvernement maurois des francs-maçons. Est-ce que ça avait en soi un intérêt? Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que depuis en tout cas la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une habitude de la presse française, car il faut dire que c'est une particularité française. Dans la plupart des autres pays, ça n'intéresse strictement personne. C'est une particularité de la presse française de révéler le nom des francs-maçons. Généralement, ces révélations sont tout de même plus ou moins organisées par les personnes qui sont concernées. Je ne sais pas si c'est ainsi pour le cas qui nous occupe aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je note, c'est que le public, de manière récurrente, semble friand de ce genre d'informations et qu'il y a toujours une certaine presse pour les lui offrir. Alors que pour les francs-maçons, c'est quasiment un non-événement.
Mais alors, le public semble friand de cela. Pourquoi? Pour quelles raisons, selon vous? Pourquoi est-ce que c'est une information?
Voilà, alors je pense que ce que ça révèle, c'est que dans la conscience collective, la franc-maçonnerie demeure, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, demeure plus ou moins une société secrète. Alors qu'elle ne l'est, au sens strict du terme, elle ne l'est à aucun titre.
Mais alors pourquoi? D'où vient ce sentiment? D'où vient cet ésotérisme apparent de la franc-maçonnerie? D'où vient le sentiment qu'en somme, quand on dit de quelqu'un « il est franc-maçon », on le dit un peu à voix basse?
Je crois que d'abord, ça tient à la nature même de l'institution maçonnique. Par sa nature, la maçonnerie n'est pas une société secrète, c'est une société relativement discrète, et ce n'est pas une société fermée, mais simplement entrouverte. C'est-à-dire que...
Ça veut dire qu'il est difficile d'y entrer.
Oui, il est assez difficile d'y entrer. Par contre, et c'est la différence majeure avec une secte, il est extrêmement facile d'en sortir et à tout moment. Mais surtout, dans sa méthode, elle comporte un certain nombre de séquences de travail qui ne se font pas sur le forum, qui ne se font pas à l'extérieur, qui ne se font pas à ciel ouvert, si j'ose dire. C'est sa méthode. En revanche, les valeurs qu'elle soutient sont des valeurs qui sont de notoriété publique et qui d'ailleurs sont inscrites dans l'histoire. Simplement, et là on aborde un autre aspect des choses, on peut dire que pendant tout le XVIIIe siècle et la majeure partie du XIXe siècle, un très grand nombre de francs-maçons l'était de façon notoire, publique, connue. Le secret de l'appartenance maçonnique, contrairement à ce qu'on peut penser...
Ça remonte à Vichy ?
Oui, pour l'essentiel. Ça a commencé un petit peu avant la guerre, avec la montée de l'anti-maçonnisme ou de l'anti-judéo-maçonnisme, parce que les deux causes étaient souvent confondues. Mais il est vrai que la terrible persécution qu'a connue la franc-maçonnerie, unique dans son histoire en France, au cours de la dernière guerre, sous l'occupation par l'État de Vichy, par les Allemands, a suscité de manière durable, dans la conscience des maçons et dans une partie du public, l'idée que c'était dangereux pour tout le monde de révéler l'appartenance maçonnique.
Alors, il faut rappeler ici, hein, pour mémoire, que la maçonnerie a fourni à peu près 3000 résistants pendant la guerre et que 66 maçons ont été déportés et tués.
Voilà, il y a eu... Alors, le chiffre est difficile à établir, mais on peut penser qu'il y a plusieurs centaines de maçons en France qui ont trouvé la mort, j'allais dire, uniquement pour fait de maçonnerie. Parce qu'on pourrait en trouver d'autres qui ont été arrêtés ou fusillés ou déportés parce qu'ils étaient par ailleurs résistants ou qu'ils avaient accompli des actes de sabotage dans le cadre de la résistance. Mais simplement parce qu'ils étaient francs-maçons. Par exemple, on a publié des listes dans des journaux, on a publié des listes interminables de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires révoqués pour leur appartenance maçonnique. C'est-à-dire des mesures vexatoires et humiliantes qui ont ruiné la vie morale de centaines de personnes qui, pour la plupart, avaient été d'honnêtes fonctionnaires tout au long de leur vie. Je pense que des événements de cette nature laissent des traces dans la conscience de tout le monde.
Alors, avant d'en venir à cet épisode sinistre de l'histoire de la maçonnerie, on va aller en amont, Roger Daché, avec vous, et essayer de voir un peu quelles sont les étapes de la constitution de la franc-maçonnerie. Dernière question liminaire. Comment expliquez-vous que le traitement de l'histoire de la franc-maçonnerie soit si complexe, en somme? Est-ce qu'il ne faut pas non plus faire l'histoire de la franc-maçonnerie, de la façon dont on a fait l'histoire? Dans votre livre, vous dites que l'histoire de la franc-maçonnerie exige, dites-vous, une distanciation particulière de l'historien du fait de l'implication très ancienne de l'institution maçonnique dans la vie intellectuelle et sociale du pays. Est-ce que vous voulez dire que l'histoire officielle de la maçonnerie a toujours été rédigée par les maçons eux-mêmes et qu'à ce titre, elle est sujette à caution?
Oui, pendant très très longtemps.
De la part d'un maçon, c'est étrange quand
même
comme affirmation.
Oui, bien sûr, mais je crois que c'est une distance critique parce que quand j'essaie d'écrire l'histoire de la franc-maçonnerie, je ne suis pas franc-maçon. Je suis historien et donc je dois prendre de la distance par rapport à mon sujet. Et je pense que précisément pendant très longtemps, l'histoire maçonnique a été écrite par des francs-maçons engagés qui écrivaient en tant que francs-maçons. Et d'ailleurs, à peu près à la même époque, elle a été écrite aussi en partie par des adversaires résolus de la franc-maçonnerie. Si bien qu'on n'écrivait pas de l'histoire...
On avait le choix entre la géographie ou la détestation.
Bien sûr, on écrivait l'histoire pour démontrer une thèse ou le contraire de cette thèse. Je pense que l'histoire qu'on pourrait qualifier de scientifique, de factuelle, de positive...
D'objective.
Voilà, de la franc-maçonnerie n'est apparue en Angleterre qu'à la fin du XIXe siècle et en France il y a à peu près une quarantaine d'années. Et du coup, c'est une redécouverte considérable de tout un continent disparu qui s'est opéré.
Enfin, pardonnez-moi, c'est quand même étrange. Enfin, c'est étrange. Ça vous honore, d'ailleurs, qu'un maçon dise que l'histoire de la maçonnerie a longtemps été biaisée, si j'ose dire, par le fait que ce soit des maçons, soit des adversaires de la maçonnerie qui la racontent.
On peut même aller plus loin. On peut même dire que quand on a commencé à écrire l'histoire objective de la maçonnerie, eh bien, ça a suscité, ces découvertes ont suscité de la part d'un grand nombre de francs-maçons, et parfois encore de nos jours, des réactions d'hostilité, comme si en quelque sorte on portait atteinte à ce qu'on pourrait presque appeler l'histoire sainte de la maçonnerie.
Cantate maçonnique de Mozart pour nous accompagner aujourd'hui et Roger Daché avec nous, historien de la franc-maçonnerie, président de l'Institut maçonnique de France pour parcourir pour les nouveaux chemins une histoire de la maçonnerie. Alors, est-ce qu'on peut dater la naissance de la franc-maçonnerie, Roger Daché? Et deuxièmement, est-ce qu'il faut situer le berceau de la franc-maçonnerie définitivement en Grande-Bretagne?
Alors la question de la date est une question très compliquée, d'abord parce qu'il est toujours très difficile de définir la date de fondation d'une institution. Souvent, on peut proposer une multitude de dates, car il y a une multitude d'étapes intermédiaires. Et puis surtout, dans la maçonnerie, il y a une césure très importante entre ce qu'on appelle la maçonnerie opérative, c'est-à-dire la manière dont s'organisaient au Moyen-Âge les maçons qui bâtissaient des édifices matériels.
Et la
maçonnerie spéculative, qui elle, évidemment, rassemble des hommes qui, à l'époque, au début, c'était uniquement des hommes, aujourd'hui c'est aussi des femmes, qui ne bâtissent pas d'édifices matériels mais qui bâtissent des édifices spirituels ou intellectuels.
Et la maçonnerie opérative, attendez, juste pour bien comprendre, maçonnerie opérative, ce sont les maçons.
Alors oui, ce sont des maçons de métier, ce sont des maçons qui taillent des pierres, qui les mettent les unes sur les autres, qui construisent. Et ces maçons, on sait ce qu'ils faisaient, on connaît leur organisation au Moyen-Âge. Et puis, ce qui est beaucoup moins clair et qui ne l'est pas encore complètement aujourd'hui, c'est les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles on est passé d'une organisation de métier à une organisation qu'on pourrait qualifier de philosophique.
Mais comment s'est opérée cette transition, Roger Daché ?
Eh bien, justement, c'est ça qui fait encore aujourd'hui débat parmi les historiens. Ce que l'on peut dire, c'est que, d'abord pour répondre à votre deuxième question, cela s'est fait en Grande-Bretagne.
Freemasons.
Oui. Freemason est un mot anglais, et cela s'est fait en Grande-Bretagne dans le courant du XVIIe siècle. Ce n'est pas une époque quelconque, parce que c'est très lié à l'histoire politique et religieuse des îles britanniques, avec évidemment la réforme au milieu du XVIe siècle, et puis surtout plus de 150 années de guerres civiles, politiques et religieuses qui ont ensanglanté le pays. Et on s'aperçoit que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, au moment où, après la période cromwellienne, la monarchie est rétablie, il y a une volonté diffuse en Angleterre, c'est d'établir de manière durable la concorde civile, politique et religieuse.
Vous voulez dire qu'au terme des événements tragiques du XVIIe siècle anglais, la maçonnerie est apparue comme garante, d'une certaine façon, d'un parlementarisme pacifié ?
Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'elle est apparue juste à ce moment-là. Il y a un caractère contemporain, une coïncidence de temps entre l'apparition de la franc-maçonnerie et le fait que la société anglaise a cherché un nouvel équilibre. Il y a une autre coïncidence.
Juste pour finir là-dessus, est-ce que c'est à cela qu'il faut imputer le fait que la franc-maçonnerie a toujours été hostile au totalitarisme, au despotisme ?
Oui, je pense que fondamentalement, ça c'est dans les gènes de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est née dans une société qui voulait tourner définitivement le dos à tous les despotismes politiques ou religieux.
Donc contre Cromwell. Contre Cromwell.
Contre Cromwell, mais je dirais même contre tous les égarements de la société anglaise pendant plus d'un siècle. Et il y a une autre coïncidence qui est très intéressante. C'est ce que Paul Hazard avait appelé, il y a de nombreuses années déjà, la crise de la conscience européenne. Paul Hazard a décrit une transformation de la pensée en Europe qu'il périodise très curieusement entre 1670 et 1715. Alors, moi, comme beaucoup de gens, j'avais lu ce livre avant même de m'intéresser à l'histoire de la franc-maçonnerie. Paul Hazard ne s'est jamais intéressé à l'histoire de la franc-maçonnerie. Et un jour, quand j'ai repris ce livre, vous savez, je n'avais pas lu le sous-titre. On devrait toujours lire les sous-titres des livres. Et le sous-titre de la crise de la conscience européenne, c'est justement cette périodisation. Et je me suis un jour rendu compte, c'était pour moi une découverte très frappante, que 1670-1715... c'est exactement la période pendant laquelle la franc-maçonnerie spéculative sort du néant documentaire. C'est-à-dire que le surgissement de la franc-maçonnerie spéculative en Angleterre est exactement contemporaine de la crise de la conscience européenne.
Mais à quel texte faites-vous référence, Roger Daché ? Parce que dans mon esprit, les premiers textes maçons, c'est 1723, les constitutions d'Anderson.
Eh bien, pas du tout. C'est une fin de série pour l'historien des origines de la franc-maçonnerie.
C'est la pointe de l'iceberg,
oui,
en fait.
Oui, exactement.
Alors, qu'est-ce qui précède ? Quelle est la préhistoire de ces fameuses constitutions d'Anderson auxquelles tout le monde se réfère ?
Eh bien, on a des témoignages documentaires qui deviennent assez clairs à partir de la fin des années 1660, début des années 1670, qui nous montrent qu'à cette époque, on a par exemple un texte de cette époque qui nous dit « Les francs-maçons sont répandus dans toute la nation ». Il parle de l'Angleterre. Et on ne sait pas très bien de qui il s'agit. D'ailleurs, on pourrait donner, pour tout le XVIIe siècle anglais, on pourrait donner tout au plus une dizaine de noms.
Oui, puis se pose la question de savoir en vertu de quoi on se dit franc-maçon.
Voilà, alors on nous dit ils sont organisés en loges, ils se réunissent. On a quelques éléments sur le symbolisme et le rituel de leurs assemblées, donc on peut très bien les identifier comme des francs-maçons. Et on s'aperçoit qu'ils commencent à apparaître dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Et puis, 1715, dit Paul Hasard, moi je dirais plutôt 1717, tout le monde sait, tous ceux qui se sont intéressés à l'histoire de la franc-maçonnerie, savent que c'est la création de la première grande loge en juin 1717. Et les fameuses constitutions auxquelles vous référez, les constitutions d'Anderson, sont le premier produit intellectuel et réglementaire de cette première grande loge en 1723. Mais du point de vue de la genèse de l'institution maçonnique, c'est au fond l'aboutissement d'un processus qui avait commencé 50 ans plus tôt.
Vous racontez dans votre livre, effectivement, qu'une obédience maçonnique naît en juin 1717. Mais alors, que sont les constitutions d'Anderson ?
Alors, c'est un texte éminemment politique. C'est-à-dire qu'il y a dans les constitutions d'Anderson deux ambitions. La première ambition, c'est de dire ce texte va assurer l'autorité de la Grande Loge, qui est une organisation entièrement nouvelle, une espèce de grande association à l'échelle d'abord de Londres et de ses environs et puis ensuite du pays tout entier, qui repose sur un texte en quelque sorte organique qui va asseoir son autorité.
À ce moment-là, la sociologie de la maçonnerie est une sociologie huppée.
Alors, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'au départ, c'est une sociologie très modeste, c'est-à-dire que ce sont des petits artisans, des petits boutiquiers, et que la fonction essentielle de la maçonnerie semble être celle d'une société mutualiste. On met un peu d'argent en commun pour s'entraider. Et quand la Grande Loge est créée, il se passe un phénomène que probablement ses fondateurs n'avaient pas prévu. Au bout de 2 ans, c'est-à-dire en 1719, on voit apparaître comme grand maître un personnage qui s'appelle Jean-Théophile Desaguliers. Et Jean-Théophile Desaguliers, c'est exactement comme si vous preniez, je vais caricaturer
Descartes.
Un peu, mais je pense... Oui, mais exactement. Vous prenez, ou pour être contemporain, vous prendriez une petite association de boulistes du Bois de Boulogne et vous découvrez qu'un jour, le président s'appelle Georges Charpak. Alors vous direz, c'est peut-être parce qu'il aime jouer aux boules. Non, c'est parce qu'il est Charpak. C'est parce qu'il est un très grand physicien. Eh bien, Jean-Théophile Desaguliers est un très grand physicien. C'est même le principal disciple de Newton, et il devient, c'est un personnage très en cours, et il devient grand maître, c'est-à-dire président, d'une association de gens très humbles.
Je citais Descartes, parce que ce qui est très étonnant avec le geste de Desaguliers, c'est que c'est un geste typiquement cartésien, puisqu'il avait trouvé fautifs tous les exemplaires des anciennes constitutions, finalement, et que Desaguliers avait ordonné qu'ils fussent, je le cite exactement, refondus selon une nouvelle et meilleure méthode. C'est les principes de la philosophie, ça.
Exactement. Et d'ailleurs, plus que Descartes, on pourrait référer à Newton, car c'est vraiment le fils spirituel de Newton. Et Newton, évidemment, qui à l'époque est considéré comme le plus grand génie de l'Europe, hein, le maître de tous les savants. Et ce qui est très extraordinaire, c'est qu'autour de cela, et d'une société anglaise réconciliée autour de ces nouvelles institutions, la maçonnerie va devenir, et les constitutions 1723 en sont le témoignage, va devenir le modèle d'une société idéale. Alors, en particulier sur les questions religieuses.
Idéale à quel titre ? Alors, les questions religieuses, quelle est cette religion qui figure donc dans les principes sur laquelle tous les hommes sont d'accord ?
Oui.
Alors, c'est quoi cet espéranto religieux ?
Oui, alors, c'est le titre premier des constitutions de 1723. Alors, c'est un texte qui, depuis 2 siècles, a fait couler des tonnes d'encre, mais malheureusement, on le commente souvent de manière, à mon avis, inappropriée. Parce qu'encore une fois, nous, trop souvent, on le commente à la lumière de notre propre conception des relations entre le religieux et le politique au XXe ou au XXIe siècle. En fait, il faut comprendre qu'au début du XVIIIe siècle, l'Angleterre décide de faire la paix civile et religieuse selon un modus vivendi qui n'avait aucun équivalent en Europe. Il faut relire un texte contemporain, à quelques années près, que sont les lettres philosophiques ou lettres anglaises de Voltaire. Voltaire va passer quelques années à Londres, il est forcé, il en revient et il décrit la société de Londres. Et il décrit une chose extraordinaire, je crois que c'est dans la 6e lettre, il décrit la Bourse de Londres. Oui. Et dans la Bourse de Londres, il dit, eh bien voilà, tous les gens de quelque religion qu'ils soient peuvent venir dans la Bourse de Londres, ils font des affaires ensemble et dans cet endroit-là, on ne déclare hérétique que ceux qui font banqueroute. Et puis quand ils sortent de la bourse, ils retrouvent leurs appartenances. Eh bien, vous changez le mot « bourse » par le mot « loge » et vous obtenez le modèle de sociabilité nouvelle que la franc-maçonnerie a probablement voulu incarner.
La marche des francs-maçons de Jacques-Christophe Naudot pour ponctuer cette émission avec vous, Roger Dachet, qui est historien de la franc-maçonnerie et qui nous racontait des choses tout à fait passionnantes. Quittons l'Angleterre voltairienne dont vous venez de nous parler et retournons en France, dont vous parlez comme de la fille aînée de la franc-maçonnerie. Donc ça n'est pas en France que la franc-maçonnerie est apparue, mais en revanche la France est fille aînée non seulement de l'Église, mais également de la franc-maçonnerie.
Oui, c'est une expression qui m'a amusé parce que tout le monde sait que depuis la fin du 19e siècle, en tout cas, car cette expression n'est pas plus ancienne, que la France est la fille aînée de l'Église, mais elle l'est aussi de la maçonnerie parce qu'elle a donné à la franc-maçonnerie un rayonnement européen, j'allais dire presque universel, que peut-être elle n'aurait pas eu si elle était restée en Angleterre. Et elle aurait très bien pu rester en Angleterre. Elle n'est venue en France que par accident, parce qu'un certain nombre d'opposants politiques, anglais, écossais, irlandais,
les Jacobites,
se sont trouvés obligés de quitter l'Angleterre.
Pour des raisons religieuses, en somme. Pour des raisons religieuses.
Pour des raisons politiques et religieuses, mais à l'époque, c'était à peu près les mêmes raisons. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand la maçonnerie arrive en France, elle n'est pas du tout dans la même société que la société anglaise. Il ne faut pas oublier que là, nous sommes sous le règne du jeune Louis XV, qui n'exerce pas encore le pouvoir. C'est Fleury qui dirige la France. La France est en régime de révocation, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être protestant. Et deuxièmement, la France est dans une monarchie absolue et non pas dans une monarchie parlementaire. Et donc, dans son esprit et dans ses formes, on peut penser que la franc-maçonnerie est contraire à toutes les institutions politiques et religieuses du pays.
Il y a eu d'ailleurs à cette occasion quelques arrestations, quelques perquisitions.
Oui, mais alors il s'est produit, ça n'a pas duré très longtemps et ça n'a pas été très méchant, mais il s'est produit quelque chose de très curieux, c'est que les francs-maçons ont mis à leur tête, pour les protéger, un prince du sang. Et ils ont eu pendant plus de 30 ans Louis de Clermont, le comte de Louis de Clermont, de Bourbon-Condé, qui était prince du sang, qui était un personnage considérable, et qui d'ailleurs mourra en 1771, plutôt en exil, parce qu'il était hostile à la réforme des parlements. Mais en tout cas, les francs-maçons ont mis à leur tête des aristocrates qui les protégeaient, et ils ont pu, contre toute attente, vivre cette sociabilité où l'on célébrait la fraternité et l'égalité, alors que, bien entendu, dans l'ordre civil et politique, ça n'était pas du tout les règles qui prévalaient en France.
Est-ce que ça suffit à faire de la franc-maçonnerie l'une des sources de la Révolution française, Roger Dachet ?
Je ne le crois pas du tout. Ça aussi, c'est un grand débat. On a accusé à droite et à gauche la franc-maçonnerie d'avoir été à l'origine de la Révolution française, ou plutôt on l'a accusé à droite et on l'a revendiqué à gauche. En réalité, ce n'est pas du tout vrai. Quand on regarde les choses en détail, on s'aperçoit que d'abord, il y a eu autant de guillotineurs que de guillotinés parmi les francs-maçons, et qu'une des premières victimes de la Révolution, ça a été la franc-maçonnerie, puisqu'elle s'interrompt en 1793 et qu'il lui faut à peu près 3 ans pour sortir de l'ombre. Et,
oui.
Mais en revanche, il est certain que dans les loges, on a trouvé un des lieux parmi d'autres, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, où l'on a pu pratiquer une sociabilité nouvelle, fondée sur la fraternité et l'égalité, et qu'on ne peut pas penser que la pratique de cette sociabilité, dans certains milieux sociaux, présents dans les loges, la bourgeoisie, la petite aristocratie, on ne peut pas penser que cela n'ait pas eu une certaine influence, mais au même titre que les clubs littéraires ou les cabinets de lecture, par exemple.
C'est ça. Alors, comment expliquer à ce moment-là le fait que le Premier Empire soit l'âge de l'apogée de la maçonnerie en France ?
Alors, c'est une apogée tout à fait paradoxale, parce qu'en réalité...
Tout est paradoxal dans l'histoire
oui,
de la
maçonnerie.
Oui,
bien sûr. Alors là,
tout est paradoxal. Les rapports avec l'Église qu'on a enjambés allègrement, là, pour l'instant, sont paradoxaux également. Mais alors, donc, pourquoi le Premier Empire ? Pourquoi
alors,
ça ?
C'est une initiative de l'empereur. C'est une initiative de Napoléon. Napoléon lisait beaucoup la presse anglaise, et il avait été très impressionné par le fait que, en Angleterre, entre la période qu'on évoquait tout à l'heure et le début du 19e siècle, la franc-maçonnerie était devenue une sorte d'institution de la monarchie anglaise. Et il s'est dit, moi je veux la même chose. Et il a enfermé la franc-maçonnerie dans une cage dorée, mais à une condition absolue, c'est qu'elle ne pense pas du tout et qu'elle ne réfléchisse sur à peu près rien. On a un témoignage qui nous est rapporté par Lascaz de la pensée de l'empereur sur la maçonnerie en 1816, où il dit « c'est un tas d'imbéciles qui se réunissent régulièrement pour accomplir quelques folies ridicules et faire bonne chère, mais ils nous ont servi un peu pendant la Révolution et contre l'Église ». Voilà l'opinion de Napoléon sur la franc-maçonnerie.
Et de là, donc, le succès de la franc-maçonnerie. Et alors, du coup, également, sa déshérence pendant la Restauration.
Oui, mais en même temps, à cause de cela, à cause du fait qu'elle avait été mise en laisse dans une sorte de cage dorée pendant 15 ans. Très curieusement, lors de la Restauration, elle a été identifiée à tort. Elle a été identifiée à une institution napoléonienne et du coup, elle n'a plus été bien vue du pouvoir. Et pour cette raison, dès les années 1820-1830, elle a vu affluer vers ses loges les opposants politiques. Il n'y avait pas de liberté politique, mais le seul endroit où on disait qu'il y avait des opposants, c'était les loges. Et à force de le dire, c'est devenu vrai.
C'est devenu vrai. Et c'est là que la franc-maçonnerie s'est associée au combat républicain et laïque.
Voilà, on peut dire qu'au milieu du 19e siècle, c'est chose faite. En France, c'est chose faite. D'une certaine manière, 1848, qui est une révolution romantique extraordinaire, on peut la voir sous l'angle où l'a dépeinte Flaubert, mais il y a une autre vision de 1848, c'est une révolution spiritualiste. On présente à l'époque le Christ comme étant le parangon de tous les libérateurs du peuple opprimé. Eh bien, la maçonnerie se présente comme la force qui va guider le peuple en lui montrant la lumière de la liberté. Et il y a des francs-maçons partout dans la rue, sur les barricades et dans le gouvernement provisoire. C'est le début de l'implication politique de la franc-maçonnerie en France.
Mais alors, comment se fait-il qu'il faille attendre, dans le cas de l'affaire Dreyfus, un peu plus tard, si vous dites que la franc-maçonnerie est impliquée dans ce combat républicain, comment se fait-il qu'il faille attendre la publication de l'article de Zola, finalement, pour que les frères maçons s'engagent aux côtés des Dreyfusards?
Parce qu'il y a des souvenirs que certains n'aiment pas qu'on rappelle, et en particulier qu'à la fin du 19e siècle, en France, il y avait un réel antisémitisme de gauche.
Tout simplement. Mais au début du 21e aussi,
mais bien entendu, il y avait un réel antisémitisme de gauche, et on identifiait les Juifs à la classe possédante. De sorte que les milieux de gauche étant principalement représentés dans la franc-maçonnerie à la fin du 19e siècle, on a attendu avec beaucoup de prudence d'être certain ou à peu près certain que Dreyfus était innocent pour le défendre. Mais il faut reconnaître qu'à partir du moment où l'innocence de Dreyfus est apparue assez claire, la franc-maçonnerie s'est clairement engagée pour le défendre précisément.
Et comment expliquer également la place qui est accordée aux femmes, qui finalement est une place réduite historiquement dans la franc-maçonnerie, puisqu'il y avait le rite d'adoption qui en somme ne valait pas grand-chose, jusqu'à la constitution d'une loge appelée le droit humain. Comment expliquer donc cette place marginale qui a été faite aux femmes pendant très longtemps ?
Il y a deux explications. Il y a d'abord une explication par la tradition, c'est-à-dire que très curieusement, la franc-maçonnerie qui proclame très souvent qu'elle est philosophique, philanthropique et progressive, est une société fondamentalement structurée par des traditions. Et l'essentiel de ces structures a été fixé au XVIIIe siècle où les femmes n'avaient pas de statut civil. Et donc, il lui a fallu porter, jusqu'à nos jours d'ailleurs, cette tradition. Mais à la fin du 19e siècle, parmi les hommes qui, au Parlement, voulaient fonder la République, et donc on aurait pu penser que justement, ils allaient accomplir la libération des femmes, et dont beaucoup étaient francs-maçons, eh bien, beaucoup d'entre eux se méfiaient des femmes et ne voulaient pas les voir dans les rangs de la franc-maçonnerie, parce qu'on disait que les femmes étaient sous l'empire des prêtres. Et on craignait qu'avec les femmes, le péril clérical ne vienne s'exprimer à l'intérieur des loges. Et il a fallu beaucoup d'années pour qu'on comprenne que c'était évidemment une crainte injustifiée.
Noé Masson.
C'était passionnant de vous entendre, Roger Dachet. Merci d'être venu nous parler, nous avoir raconté un tout petit peu de l'histoire de la franc-maçonnerie, autant qu'on pouvait en dire en une demi-heure. Et c'est bien dommage d'ailleurs que l'émission s'arrête maintenant. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut maçonnique de France, historien de la maçonnerie, ça les auditeurs l'auront compris. Vous avez notamment publié dans la collection Que sais-je, donc aux presses universitaires de France, deux Que sais-je, une histoire de la franc-maçonnerie française que je recommande à tout le monde, et les 100 mots de la franc-maçonnerie, écrits avec Alain Boer, ancien grand maître du Grand Orient, et Que sais-je qui n'est pas moins passionnant. Demain, justement, je recevrai Jean-Michel Quillardet, qui est le nouveau grand maître du Grand Orient de France, pour terminer cette semaine, revenir sur la question de la laïcité et la question aussi de la place des femmes dans la maçonnerie. À la technique aujourd'hui, c'était Claude Courtois, ou à la réalisation François Connac. Assistante Geneviève Méric, à qui je souhaite un prompt rétablissement, Avril Ventura et Marion Richet, bien sûr.